Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Je reçois dans quelques instants Mélissa Weitlingham, qui vient du réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de Montréal, communément appelé le RACAR. On a à l'espresso et à l'espresso allongé le sujet sur la violence conjugale. Notre invitée en début de deuxième demi est Lisa Marie Ontois, qui vient nous parler de son projet Humain avant tout. Alors, c'est le menu de Folie Douce cette semaine. On commence en chanson avec Alpha Rococo et la chanson s'intitule Incendie. Bienvenue à Folie Douce.
À l'écoute de Folie Douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale.
J'ai le plaisir d'accueillir notre invitée qui est du RACAR, Mélissa Weitlingham. Bonjour, Mélissa.
Bonjour.
Et je dirais juste une fois ton nom parce que c'est quand même assez difficile, d'origine indienne, que tu nous disais avant d'entrer en onde. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu es responsable des relations avec les membres et des communications au RACAR, le RACAR qui est bien connu dans le paysage de la santé mentale dans la région de Montréal. Mais quel est justement ce... D'abord, qui veut dire le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal, mais comment on peut présenter le RACAR si on veut faire connaître aux gens?
Bien, premièrement, le RACAR, c'est un regroupement d'organismes en santé mentale. Donc, on regroupe 90 et plus. Maintenant, on en a, ça grandit chaque jour. Ouais. Plus de 90 organismes montréalais qui œuvrent dans le communautaire en santé mentale. Donc, c'est sûr que nous, on les représente sous toutes les formes de représentation, là, par exemple politique et tout ça. On les aide aussi et on veille aussi à ce que leur rapport soit reconnu en tant qu'organisme communautaire autonome.
Et vous les informez aussi, parce que c'est ça la force d'un réseau, dans le fond, de dire il y a 90 organismes, ces organismes-là ne peuvent pas être au courant de tout ce qui se passe, alors que vous êtes quand même dans l'action, puis vous surveillez ce qui se passe, puis vous avez probablement beaucoup d'informations qui peuvent servir aux membres, justement.
Oui, tout à fait. On fait circuler l'information, eux nous informent, on transmet le tout... C'est très tentaculaire aussi. Là, on est sur tous les comités partout dans l'île de Montréal, les comités de concertation, les tables, etc.
Et ça prend ça parce que l'information, ça reste quand même l'outil essentiel, parce qu'avec de l'information, on est capable de se positionner, on est capable peut-être de prévenir des coups, on est peut-être capable de réagir, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose d'important dans l'information. Là.
Oui, tout à fait.
Exactement. Donc, le RACAR, en parlant d'information, il y a eu, puisque ça fait quand même longtemps que ça existe, hein, le RACAR, ça fait quand même plusieurs années.
Oui, depuis 1985.
C'est ça. Donc, depuis 1985, il y a eu récemment un portrait qui a été mené, en fait, sur les organismes pour savoir, ça a évolué avec les années, pour savoir, bon, quelle est peut-être la situation des organismes. Ce serait bien de parler de ce rapport-là. Est-ce que c'était seulement à titre de portrait où on voulait avoir aussi une idée peut-être globale, même au niveau finance, au niveau vraiment le plus global possible, j'imagine?
Oui, c'est très global, ce portrait-là. Il y avait déjà des portraits qui avaient été faits, mais le dernier datait de 2002. Ouais. Donc, on s'est dit que c'était bien de l'actualiser. Donc, on a sondé nos organismes. Il y en a une grande partie qui a répondu. Et ça dresse le portrait autant des organismes en tant que tels, donc leur mission, les ressources humaines, combien ils sont, est-ce qu'ils font de l'intervention ou est-ce qu'ils font autre chose. Ça dresse, le portrait financier, est-ce qu'ils reçoivent des subventions ou est-ce qu'ils ont les moyens de se payer des intervenants, des coordonnateurs ou est-ce que c'est seulement des bénévoles, parce qu'il y en a des organismes qui fonctionnent complètement, entièrement avec des bénévoles seulement.
Ou avec très, très peu. Des fois, quelqu'un qui coordonne, mais avec un mini-budget.
Oui,
là,
c'est ça. Des fois, il y a juste une personne qui tient l'organisme. Ouais. Et puis, à part de ça, c'est le conseil d'administration qui est bénévole et des bénévoles utilisateurs, des pairs aidants.
Ça rentrait dans les détails parce qu'on peut suivre l'information, je pense, entre autres sur votre site web. Je pense que le rapport doit être là. Donc, si on veut avoir tous les détails, tout ça. Mais est-ce que, généralement, le portrait est pire ou mieux à ce que le RACAR s'attendait? Est-ce qu'il y avait des attentes d'abord?
Je suis pas certaine qu'on avait des attentes parce que c'est ça, comme je vous disais, le dernier avait été fait en 2002. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'années de différence.
Il y a plus de 15 ans.
Okay. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, je suis pas certaine qu'on avait des attentes, mais il y a quand même quelques trucs surprenants qu'on a relevés parmi les données. Là, par exemple, on pense souvent qu'on a besoin d'un diagnostic pour aller consulter ou faire partie participer aux activités d'un organisme. Ouais. Mais 94% de nos organismes membres ne demandent pas de diagnostic. Donc, si vous pensez que vous faites de l'anxiété, vous n'avez pas besoin d'avoir un diagnostic en anxiété pour aller dans un organisme qui donne des ateliers ou quoi que ce soit sur la gestion de la maladie mentale.
Je pense que la majorité de la population pense ça aussi. J'ai l'impression que c'est comme restreint aux personnes qui ont un diagnostic, puis on parle des fois de presque d'étiquette, là, mais c'est pas le cas, puis c'est mieux comme ça, dans le fond.
Oui, c'est ça, parce que comme ça, ça permet d'accueillir tout le monde, puis on sait que le réseau de la santé, c'est pas toujours facile d'avoir un accès aux soins, soit parce qu'il y a des listes d'attente, ou soit parce qu'on n'a même pas les moyens d'arrêter de travailler pour se soigner ou quoi que ce soit. Donc, oui, c'est ça. Il y a 94% de nos organismes qui ne demandent pas de diagnostic. Donc, vous pouvez tout simplement vous présenter ou vous inscrire à leurs ateliers, puis ils vont vous accueillir. C'est sûr qu'après, souvent, les gens vont mentionner leur diagnostic, mais c'est pas demandé, c'est pas nécessaire.
Ça, c'est quand même un point. Est-ce que financièrement, parce que c'est sûr qu'il y a eu certaines améliorations au cours des années. Là, on parle du PESA, entre autres, qui aide beaucoup d'organismes, qui c'est un programme de soutien aux organismes communautaires. Il y a eu des avancées, mais c'est encore toujours un peu la même question qui est avancée. On dit souvent, bon, les organismes ont toujours de la misère à gérer leurs finances. Ça, est-ce que du côté finance, est-ce que l'appréciation était bonne en général?
Je dirais qu'il y a toujours un manque de financement. C'est sûr que s'il y a des listes d'attente, ça veut dire qu'on pourrait avoir plus d'intervenants, on pourrait offrir plus de services, on pourrait avoir plus d'ateliers. Donc, on pourrait avoir plus de financement pour offrir ces services-là. Ouais. Donc,
De financement de base, souvent, on dit souvent, c'est rare les organismes qui peuvent dire qu'ils sont vraiment un financement plancher, respectable, avec lequel ils peuvent fonctionner. Donc, c'est quand même...
Oui, tout à fait. Puis... Bien, c'est sûr que là, il y a le PESA qui permet de financer les organismes à la mission, mais autrement que ça, il n'y a pas d'autres subventions qui permettent vraiment de payer les salaires des gens, l'administration, de juste tout simplement subvenir à la mission de l'organisme. Ouais. Et tous les autres financements des fondations, tout ça, c'est par projet tout le temps.
Ouais.
Donc, ça ne nous permet pas nécessairement de soutenir la mission de l'organisme en tant que tel.
De façon récurrente.
Récurrente en plus. Donc, c'est toujours difficile, c'est toujours à renouveler. Des fois, ben le financement s'arrête.
Ouais.
C'est une grosse part du budget des organismes.
Et c'est toujours un petit peu une question. On se dit toujours, pourquoi? T'sais, il me semble que ça va de soi, parce que quand même, quand on monte les calculs d'efficacité, le budget qui est utilisé par les organismes versus ce qui est utilisé dans les hôpitaux, bon, il y a beaucoup de travail qui est accompli, mais c'est toujours une question qui est en l'air. Éventuellement, peut-être qu'éventuellement, les organismes pourront avoir gain de cause puis arriver à le financement idéal, mais ça, c'est une autre histoire. J'aimerais que ça qu'on parle d'un autre sujet. Vous avez récemment, je pense, mis en place, ou en tout cas, organiser une formation. C'est un peu comme les premiers soins en santé mentale. On parle de premiers soins en santé physique souvent, mais il y a une nouvelle formation qui a été mise en place. Est-ce qu'on peut en parler, justement?
Oui, ben oui, tout à fait. Donc oui, ça s'appelle les premiers soins en santé mentale. C'est une formation à la base qui a été faite par la... C'est un organisme en Australie. Et puis au Canada, c'est la Commission canadienne de la santé mentale qui l'a instaurée au Canada.
Oui,
qui l'a chapeauté un peu, si on veut. Et puis, nous, on a des formateurs, formatrices qui viennent au raccord et puis on ouvre des groupes et c'est très en demande. Donc, il y a des listes d'attente qui se créent.
Oui.
Puis quand on ouvre les dates, ça se remplit très rapidement. Mais oui, on en a offert deux dernièrement et puis on va en offrir plein dans l'année 2019-2020, les années à venir. Là,
qu'est-ce qu'on y retrouve dans cette formation-là? Pourquoi il y a de l'engouement comme ça?
En fait, c'est sûr que c'est une formation de base, de premiers soins. Donc, ça ne s'adresse pas aux intervenants qui sont déjà en santé mentale, mais tout le reste de la population qui n'est pas un spécialiste en santé mentale pourrait suivre cette formation-là. Donc, on y voit vraiment des notions de base. Donc, qu'est-ce que c'est la dépression? Qu'est-ce que c'est l'anxiété? C'est quoi les troubles de l'humeur? Les psychoses, même les psychoses toxiques, la consommation de substances. Et puis, on voit vraiment comment est-ce qu'on répond à ça quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, comment l'écouter, l'écoute active, comment amener cette personne-là à aller chercher de l'aide? À plus long terme, comme l'aider à court terme, mais aller la pousser à chercher de l'aide à long terme pour se soigner.
C'est souvent la question qu'on se pose. On entend ça un peu partout, aller chercher de l'aide, n'ayez pas peur, aller chercher de l'aide. On se demande toujours, mais par où on commence à chercher de l'aide? T'sais, c'est un peu vague. Donc, en précisant peut-être comment on peut intervenir, les gens qui ont cette formation peuvent justement avoir peut-être la bonne méthode.
Oui, c'est ça. Ben, moi, je l'ai suivi personnellement parce que de formation, je ne suis pas intervenante. Hein, je suis la responsable aux communications.
Ouais.
Puis même si on n'est pas un organisme qui offre des services de base, bien, on est quand même appelé à répondre au téléphone, écouter des personnes. Des fois, il y en a même qui viennent à notre bureau. Des personnes qui peuvent être en crise, en situation de crise, des fois.
Il faut que vous soyez capable de les référer.
Oui, il faut qu'on
endroits.
Soit capable, c'est ça, exactement. Puis c'est sûr qu'on a les ressources en tant que regroupement, mais nous, en tant que personne, il faut qu'on soit capable de leur répondre aussi dans les médias. Donc, moi, j'ai trouvé ça très pertinent pour moi-même.
La majorité des gens qui ont participé à ça, est-ce que c'était des gens, mettons, qui avaient des proches, qui avaient des problèmes de santé mentale ou plus des gens qui s'intéressaient à la question? Est-ce que vous avez réussi à faire un portrait peut-être des groupes?
Souvent, je vous dirais, c'était plutôt soit des intervenants qui n'étaient pas spécialisés en santé mentale ou des gens qui travaillent dans des organismes qui ne sont pas en santé mentale, mais qui sont quand même amenés à recevoir des personnes qui ont peut-être des problématiques. Par exemple, les centres d'emploi.
Ça. Ils peuvent réussir à voir à ce moment-là. Et puis, ils veulent justement peut-être remédier. À la journée que ça arrive, c'est peut-être pas tout le temps, mais justement, ces gens-là ont peut-être moins la facilité de régler les problématiques ou en tout cas d'aider les gens, effectivement.
Là. Oui, c'est ça. Puis cette formation-là brise beaucoup les préjugés aussi. Donc, oui, c'est très important pour les gens qui sont dans leur contexte de travail, qui sont apportés à travailler avec des personnes qui ont des problématiques de santé mentale.
Oui. Il nous reste environ 2 minutes, Mélissa. Oui. Je pense qu'il y avait d'autres sujets intéressants que tu voulais nous parler en rapport au raccord. On va prendre un peu de temps.
Ben oui, ben aussi, je voulais parler du COSME, qui est notre regroupement national québécois, regroupement en santé mentale, qui regroupe 10 régions, dont Montréal. Et puis, le COSME s'occupe, entre autres, de proposer 35 revendications, donc 35 propositions par rapport au plan d'action en santé mentale du gouvernement. Et puis, ben, comme le plan d'action en santé mentale se termine en 2020 et qu'en plus, ben, là, on a un changement de gouvernement, on est en train de renouveler les 35 propositions.
Ouais.
Donc, nous, ce qu'on fait très bientôt au raccord, c'est qu'on va consulter nos membres sur les 35 propositions. Ça, quand ça va être fait, on va pouvoir rapporter nos commentaires, ce qu'on trouve qui manque dans les 35 propositions, etc. On va pouvoir ramener ça au regroupement national et puis mettre à jour ces 35 propositions-là pour ensuite fonder nos revendications
auprès du gouvernement. Parce qu'on sait que ce plan d'action-là, on l'a attendu longtemps. Il y a eu un espèce de trou, de 5 ans avant d'avoir le nouveau plan qui va se terminer. Ça passe tellement vite, 5 ans. Alors, j'imagine on veut prendre les devants puis dire on veut pas encore avoir un trou de 5 ans avant d'avoir le prochain.
Donc, exactement.
C'est ça la clé. Le plan aide à avoir des directives. C'est pas toujours mis en application, mais je pense que...
Oui, c'est ça. Ça a été très lent le mettre en... Oui, le plan a été écrit, mais après le
déployer.
Le déployer, c'est quelque chose aussi. C'est des gros changements qui ne viennent pas en 5 ans. C'est très court. Hein,
exactement.
Pour des gros changements au niveau du gouvernement du Québec, à la grandeur du Québec, je veux dire, dans toutes les institutions.
C'est comme de faire tourner un gros bateau. Là.
Exactement. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Fait que on essaie de prendre l'avance. On essaie qu'il n'y ait pas d'autres trous, puis que là, cette fois-ci, ça soit la bonne pour qu'il soit... bien déployé.
Oui, Mélissa, j'aimerais ça qu'on mentionne aussi, parce que tantôt on parlait du portrait que vous avez pu développer justement sur la santé des organismes qui font partie du raccord.
Oui.
Les gens peuvent le trouver sur votre site web. Est-ce qu'on peut donner justement l'adresse du site web?
Oui, notre site web, c'est le raccordsm.org, donc raccord, R-A-C-O-R, S-M comme santé mentale, .org.
Et par téléphone, on peut vous rejoindre aussi, j'imagine?
Oui, au 514-847-0787. 514-847-0787.
Bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, Mélissa Vatilingam.
Mais ça me fait plaisir.
Alors, du raccord, et puis à la prochaine. Bonne continuation.
Oui, merci.
Au revoir.
Cours dans tous les sens, en distance. C'est fou qu'on s'habitue d'être autant essoufflé. Moi qui veux partir loin, je rêve veillé. Toujours sur la route, mais jamais pour m'éloigner. Faire pousser des plantes, la vie mange et tout ce qu'on me refait pousser comme ça, juste pour te coller. Mais pour l'instant, on sent le meilleur de nous deux. Ce soir, on arrache tous les yeux. Je viendrai te chercher avec ma voiture volante. On veut les garder d'amoureux. Pendant que tu dors, moi je fixe fond bleu. C'est pour que mon élastique puisse encore s'étirer. Mais je suis tellement à deux, je m'en plus où habiter. Même si c'est la saison, plus besoin de maison, je veux pas en tourner. Pas de coups juste par l'amour, en plus c'était de pop. Je t'adore, pas de FaceTime sans pouvoir se toucher, mais je veux tout. Inventer quelque chose qui va nous transporter par la pensée. Quelque chose qui va continuer quand moi je veux juste aller me coucher. On sent le meilleur de nous deux. Ce soir on arrache tous les yeux. Je viendrai te chercher avec ma voiture.
s'en aller. On passe notre vie à découvert.
Vous avez des commentaires, des questions ou des idées pour Folie douce? Laissez-nous un message sur notre boîte vocale au 514-990-9604. 514-990-9604.
C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte.
Salut Yvan.
Bonjour Ghislaine Malo.
Bonjour.
On parle aujourd'hui d'un sujet qui est très fréquent, assez fréquent quand même, qui n'est pas facile, la violence conjugale.
Oui, un sujet dont on a déjà parlé et dont on reparlera probablement.
Oui, oui. C'est sûr.
Parce que tu dis que c'est quelque chose de récurrent.
Oui, oui, absolument.
Malheureusement, un sujet qui va probablement jusqu'à la fin des temps.
Sûrement.
Peut-être. On espère que non, mais on verra. Alors, c'est un article écrit par Mme Juliette Debordes, qui est journaliste française au journal Libération. En fait, c'est le cas de Lorena Bobbitt qui avait fait beaucoup jaser dans les années 90, qui revient sur le tapis, si on veut.
C'est pas une légende urbaine, c'est non, arrivé non. pour vrai. Oui. Là.
Alors, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait couper la masculinité.
Oui, on parle de Marie, oui. Alors, on nous dit une série documentaire sortie en février 2019 aborde la question de la violence conjugale aux États-Unis à travers le cas de Lorena Bobbitt, femme violée et battue, surmédiatisée au début des années 90 après avoir émasculé son mari. C'est une histoire qui débute comme un rêve américain. Nous sommes à la fin des années 80. Lorena, jeune manucure latino, rencontre John, engagé dans la marine, dans un bar de Virginie. Elle a grandi au Venezuela et son anglais n'est pas très assuré. Lui porte un uniforme et se bat pour son pays. Il tombe sous le charme et se marie un an plus tard. Elle a 20 ans. Son mari, de 2 ans son aîné, la décrit comme douce et innocente. Ils ont des allures de roi et de reine de bal de promo. Les violences démarrent peu après la cérémonie. Pendant 4 ans, Lorena Bobbitt dit avoir été victime d'abus physiques, sexuels et psychologiques. Son mari la bat, l'étrangle et la viole. Il l'oblige à avorter et menace de la faire expulser des États-Unis. Une histoire de violence conjugale tristement banale qui se serait peut-être terminée par une entrefilet dans un journal local le jour où John aurait mis ses menaces à exécution et aurait tué sa femme. Le couple a pourtant été propulsé en 1993 à la une des tabloïds du pays et vu son nom tourner en boucle sur les chaînes nationales. Parce que la nuit du 23 juin 1993, Lorena Bobbitt a commis l'impardonnable aux yeux du public américain. La jeune femme de 24 ans, après un nouveau viol conjugal, s'empare d'un couteau de cuisine et sectionne le pénis de son mari alors qu'il est assoupi dans leur appartement de Manassas, en Virginie, à quelques kilomètres de Washington, D.C.
Je ne sais pas si c'est le mot impardonnable, ce serait plutôt spectaculaire et inhabituel.
Et violent.
Oui, violent. Très violent. C'est comme, tu sais, assez inhabituel comme geste à l'époque.
Mais le mot « impardonnable » était marqué entre guillemets parce que je pense que c'est un mot qui est apparu pendant le procès.
Ça avait mal passé dans l'opinion publique, évidemment, on ne savait peut-être pas toutes les...
Ça avait provoqué des réactions.
Ça avait donné une guerre entre les hommes et les femmes. Certaines femmes pouvaient comprendre, certains hommes pouvaient sentir que ça fait mal pour le vrai.
J'imagine.
Alors, elle s'enfuit avec à la main le phallus sectionné qu'elle jette par la fenêtre de sa voiture. L'organe retrouvé dans une pelouse par la police sera recousu au cours d'une opération de 9 heures. Une prouesse qui vaudra même à John Bobbitt une brève carrière dans l'industrie pornographique. Imaginez. Le fait divers est relaté dans une série documentaire en 4 parties diffusée fin janvier 2019 au Festival de Sundance et désormais disponible sur Amazon Prime Video, le service de streaming du géant du commerce en ligne. On fait un peu la publicité, mais en tout cas.
Ouais, ce qui veut dire qu'il est disponible pour les gens qui veulent l'acheter en tout temps.
Mais écoutez, ça donne quand même... on peut voir, peut-être tu vas l'aborder dans ton texte, mais on peut voir jusqu'à quel point une femme peut se sentir vraiment désemparée, à force d'être violentée, puis d'être battue,
ouais,
puis
pendant
d'être violée.
4 ans.
C'est ça. On voit l'extrême, ouais. Là, dans le fond.
À la façon de la série Netflix Making a Murderer, Lorena, réalisée par Joshua Roffey et coproduite par Jordan Peele, donne la parole aux deux protagonistes et aux témoins de l'époque, soit des policiers, des médecins et des voisins. Des entrevues entrecoupées d'extraits du procès diffusés en direct sur CNN en 1994. Pourquoi revenir un quart de siècle après sur l'histoire du couple Bobbitt? On se questionne brièvement lors du premier épisode quand le documentaire flirte avec le cocasse, narrant en longueur l'ablation du membre viril, ce qui nous donne droit à une vision sanglante dont on aurait pu se passer. Et sa recherche. La police ira jusqu'à chercher dans le lave-vaisselle du couple pour le retrouver. Au fur et à mesure du visionnage, on réalise que Lorena raconte bien plus qu'un fait divers sordide. La série dépeint une société américaine dans laquelle la voix d'un homme mutilé a plus de valeur que celle de la femme qu'il a brutalisée pendant des années. Une société phallocentrée et phallocrate dans laquelle les hommes ont le regard rivé sur leur entrejambe et un droit de vie ou de mort sur leur conjointe. Un des frères du mari a dit « Elle a fait pire que de le tuer, elle a pris ce qui compte le plus pour un homme. » Quand il menace d'assassiner sa belle-sœur pour se venger, le public l'ovationne. Cette année-là, plus de 2000 femmes ont été tuées par leurs partenaires aux États-Unis sans qu'un grand monde ne s'en émeuve. Décrite comme manipulatrice et impétueuse par la presse à scandale, Lorena Bobbitt devient le symbole de l'épouse qui se rebelle face à son mari violent. La surmédiatisation du procès, au cours duquel la jeune femme fait le récit difficilement soutenable des abus subis, libère aussi la parole de celles nombreuses qui ont vécu de telles expériences.
Mais on va poursuivre sur la violence conjugale un peu plus tard à l'émission, Pierre. Merci beaucoup. Merci, Julien, pour ta participation en Folie douce.
La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce.
J'accueille mon invitée qui est Lisa Marie Ontois. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes étudiante au doctorat en psychologie à l'Université de Montréal et vous avez fondé ce qu'on va discuter aujourd'hui, donc Humain avant tout. On veut tout savoir, c'est quelque chose de récent, mais le titre est accrocheur. Donc, qu'est-ce que c'est Humain avant tout?
Mais avant tout, c'est un projet qui vise à normaliser la souffrance psychologique puis à lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale et aussi à orienter les gens vers des ressources d'aide psychologique.
OK. Donc, c'est un ajout à ce qui peut déjà exister? Parce qu'on parle de plus en plus de santé mentale, de soutien. C'est encore le parent pauvre de la santé, mais il y a beaucoup plus d'initiatives ou d'efforts qui sont faits comparativement aux années précédentes. Mais qu'est-ce que ça apporte peut-être de plus?
Oui, en fait, c'est une bonne question. Je pense que toutes les initiatives actuelles sont louables, puis c'est important qu'on travaille tous justement ensemble pour faire avancer la cause. Mais moi, ce que j'avais remarqué dans les dernières années, c'est qu'il n'y avait pas une initiative qui proposait de parler santé mentale à toutes les semaines. Je trouvais souvent qu'il y avait certains mouvements, initiatives qui parlaient de santé mentale de manière plus ponctuelle. Puis ensuite, j'avais l'impression que ça tombait un petit peu dans l'oubli. Donc, l'idée d'Humain avant tout, c'est vraiment de parler de santé mentale de manière plus continue dans le temps pour sensibiliser les gens.
Et c'est actuellement un environnement dans Facebook qui permet aux gens de discuter, d'échanger, de... C'est un groupe, j'imagine, ça rassemble des gens qui ont les mêmes besoins, d'une certaine façon.
Oui, exactement. Donc, mais avant tout, on est sur Facebook et sur Instagram. Donc, c'est une page Facebook, n'importe qui peut s'abonner ou peut aimer la page. Puis, bien évidemment, c'est des gens qui sont sensibilisés à la cause aussi de la santé mentale. Mais de plus en plus, on a des gens qui connaissent pas vraiment ça et qui s'intéressent au sujet aussi et qui apprennent sur la santé mentale en lisant les différents témoignages qui sont publiés chaque semaine.
OK. Qu'est-ce qui vous a... est-ce que c'est, vous avez fondé ça, cette... qui va devenir... ça va devenir une organisation, en fait, parce que là, c'est un projet qui est en train de grandir, mais vous allez éventuellement avoir peut-être plus de ressources, même d'avoir un site, des choses-là. Mais qu'est-ce qui vous a amené peut-être à avoir cette idée de fonder Humain avant tout?
Oui, mais en fait, à la base, moi, j'ai été confrontée à des problèmes d'anxiété au début de l'âge adulte, aussi pendant l'adolescence, puis je ressentais un sentiment de solitude important. Puis j'ai commencé à mieux aller quand j'ai décidé d'en parler et d'aller chercher de l'aide. Donc, je pense que ça part avant tout de mon expérience personnelle. Puis ensuite, quand j'ai commencé le doctorat en psychologie, j'ai été appelée à être en contact avec la solitude et le sentiment de honte des gens que je rencontrais dans le cadre de mes stages, qui me disaient souvent qu'ils se trouvaient dysfonctionnels, anormaux. Et de là, l'idée de faire un projet social pour normaliser cette souffrance-là puis lutter contre la stigmatisation est née. Mais c'est vraiment quand il y a un membre de ma famille en 2015 là, qui s'est enlevé la vie que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose et que là, tranquillement, le projet s'est dessiné plus précisément.
Oui, c'est ça parce qu'il y a une grande souffrance. Puis souvent, comme on le dit, il y a des gens des fois qu'on ne réussit pas à aider. Puis c'est même quand on dit aller chercher de l'aide, c'est toujours un peu flou. T'sais, dans le fond, vous parlez, t'sais, vous êtes allé chercher de l'aide, mais les gens se demandent toujours, mais je commence par où? Là? J'en parle à mon entourage, je vais voir un médecin. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut de l'aide? Parce que c'est toujours un peu vague. On dit aller chercher de l'aide, mais les gens vont dire, ben je ne sais pas où aller ou je ne sais pas à qui m'adresser.
Oui, c'est un bon constat, en fait, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les témoignages ou dans mes rencontres avec les participants qui ne savent pas par quel système passer ou par quelle étape, en fait, quel chemin prendre pour avoir de l'aide. Puis un des objectifs d'Humain avant tout, c'est d'informer la population sur justement c'est quoi les étapes à suivre pour demander de l'aide, c'est quoi les différentes alternatives qui s'offrent aux gens. Puis je pense qu'il y a un gros travail à faire au Québec aussi pour éduquer la population sur les troubles de santé mentale, mais aussi sur les différentes façons d'aller chercher de l'aide.
Oui, c'est sûr, parce que la sensibilisation commence à faire ses effets. Jusqu'à un certain point, ça a été long, c'est ardu. Plus ça va, plus les gens en parlent. Des gens plus connus aussi qui sont un peu sortis, là, puis qui ont comme parlé ouvertement de leurs problématiques. Ça aide à faire prendre conscience, mais on n'est pas encore à l'étape de dire ben, comment on peut faire concrètement pour aller chercher de l'aide. Et puis, le système de la santé, où on a discuté aussi d'avoir des services en santé de façon générale, donc la santé mentale, c'est peut-être encore une autre difficulté. Là.
Oui, je pense que c'est ça. Il y a deux aspects importants. Il y a tout le travail de sensibilisation, de prévention, de lutte contre la stigmatisation, mais aussi le problème de l'accessibilité aux soins de santé psychologique. Puis moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment frappée. Au début du mois de janvier, j'ai lu l'éditorial de François Cardinal qui disait qu'il y a environ 6% du budget en santé qui est alloué à la santé mentale. Donc, il y a vraiment un sous-financement au niveau de la santé mentale. Donc ça, c'est sûr que même si les gens vont demander de l'aide, il faut qu'il y ait des services pour répondre à cette demande-là. Puis en ce moment, c'est insuffisant dans notre système de santé.
Et on sait que le milieu, toutes les alternatives ou le milieu communautaire aussi a souvent aidé, tu sais, le milieu de la santé, mais ce milieu-là aussi a beaucoup de difficultés. Donc, que ce soit au niveau, parce que dans le fond, on parle d'alternatives, souvent c'est ça qui est peut-être la solution la plus accessible parce que les gens n'ont pas nécessairement l'accès à la médecine régulière. Là. Mm-hmm. Donc, l'alternative devrait être encouragée aussi. Même votre projet, c'est une alternative. D'une certaine façon, ça vient jouer un rôle pour justement éduquer la population puis peut-être aider quelqu'un à passer à l'action, d'aller chercher de l'aide, de s'améliorer sa santé.
Oui, c'est ça. Puis en fait, les organismes communautaires ou à but non lucratif, en fait, ce que moi j'entends, ce qui ressort beaucoup dans le discours, c'est qu'il y a aussi un problème de sous-financement. Ouais. Donc, toutes les personnes qui travaillent dans ces organismes-là, en tout cas, moi, les personnes que j'ai rencontrées, c'est des personnes que j'admire, qui sont prêtes à donner beaucoup puis à offrir de leur soutien. Mais encore là, il faut des sous parce qu'on ne peut pas passer notre vie à aider les autres sur une base bénévole parce que ces intervenants-là doivent aussi subvenir à leurs besoins. Donc, je pense que, tu sais, à ce niveau-là, il doit vraiment y avoir une volonté politique de faire de la santé mentale une priorité. Là.
Oui. Dans le groupe Facebook qui est là depuis, je pense, l'été 2018, que vous avez mis
Exactement.
En place l'environnement Facebook de Humain avant tout, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme échange? Qu'est-ce que vous êtes un peu l'observatrice? Vous avez
oui.
vu naître et puis là, ça évolue. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait?
En fait, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque semaine, je publie un témoignage ou deux. Là, ces temps-ci, je publie seulement un témoignage parce que je suis très occupée d'une personne qui a un problème de santé mentale ou qui a traversé une épreuve de vie difficile. Fait que ça peut être un deuil, un cancer, un accident. Et ensuite, les gens sont invités à commenter. Et souvent, ce que je vois, c'est en fait, j'ai l'impression à travers les commentaires qu'il se crée un mouvement d'empathie et de compassion. Donc, les gens, ils vont souvent dire « Wow, je ne savais même pas que tu passais à travers cette épreuve-là. Avoir su, j'aurais été là pour toi. » Ou il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas la personne qui est sur la photo et qui va dire, par exemple, « Ben ça me donne vraiment espoir ce que tu dis parce que moi, je suis en plein dans ma dépression. » Puis de savoir que toi, tu as réussi à surmonter cette épreuve-là, ben ça me donne vraiment espoir. Donc, je pense que ça crée à la fois un mouvement d'empathie et compassion, mais ça peut aussi donner espoir à des personnes qui souffrent dans le moment où ils sont appelés à lire les témoignages. Là.
Et qui n'osent pas nécessairement en soi en parler, mais ça peut devenir un déclic. T'sais. Ils vont lire ça, « Ah, ton histoire ressemble à la mienne » ou il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui allume, il y a quelque chose qui
oui.
donne le goût peut-être d'aller plus loin, de s'aider. Là, ouais.
Oui, exactement. Puis je pense que ça brise l'isolement, puis ça peut peut-être briser le sentiment de honte. Puis t'sais, on sait en psychologie que quand le sentiment de honte est moins important, ben les gens sont appelés à aller chercher de l'aide. Quand le sentiment d'isolement aussi est moins important, les gens sont aussi amenés à aller chercher de l'aide. Donc, j'espère que le projet va amener les personnes qui souffrent d'un trouble de santé mentale ou qui traversent une épreuve de vie difficile à oser en parler et à oser aller cogner à leur porte, à la porte d'un CLSC, par exemple, ou à en parler à leur médecin.
Oui, on est en compagnie donc de Lisa Marie Ontois. On parle de Humain avant tout. Lisa Marie, donc, pour avoir mis ça de l'avant, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà pensé ou c'était arrivé vraiment comme un flash parce que vous étudiez en psychologie?
Oui.
Est-ce que vous visez à travailler dans le domaine de la psychologie ou si ça, c'est un peu un projet en même temps que vous faites vos choses, mais est-ce que, à long terme, est-ce que vous prévoyez justement investir votre temps là-dedans? Ou...
Oui, c'est une bonne question. En fait, moi, c'est certain que j'aimerais ça être psychologue clinicienne. Donc, après mes études au doctorat, là, il me reste encore quelques années, j'aimerais ça pratiquer, idéalement dans le système de santé publique. Mais par contre, ce qui est vraiment important pour moi aussi, c'est de m'impliquer socialement, autant au niveau de la lutte contre la stigmatisation que de l'accessibilité aux soins de santé psychologique. Le projet Humain avant tout, ça s'inscrit dans mon plan de carrière. Donc, j'ai pas pensé à ma carrière quand j'ai démarré le projet. Ça venait vraiment d'une motivation intrinsèque. Mais plus le temps avance, plus je réalise que c'est très aligné avec ce que je veux faire plus tard. Là.
Et c'est intéressant, même les professionnels qui se limitent pas juste à leur profession, mais qui vont aller plus, tu sais, vont faire évoluer leur profession d'une certaine façon par leur approche, parce que ça fait partie, même si c'est un projet à côté, ça fait quand même partie de l'approche que vous peut-être vous voulez pour l'avenir, en fait.
Oui, exactement. Puis en fait, moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens, bien, je peux juste parler pour le domaine de la psychologie parce que c'est mon domaine, mais qui souhaitent s'impliquer pour la reconnaissance de la profession psychologue qui est sous-valorisée aussi dans notre système, pour la lutte contre la stigmatisation de la maladie mentale et l'accessibilité aux soins de santé psychologique. Donc, je trouve que c'est très encourageant de voir ce mouvement-là.
Puis il y a beaucoup on a parlé d'un peu d'ouverture au niveau de l'accessibilité, là, au niveau de... ça coûte de l'argent, les gens qui n'ont pas d'assurance, qui veulent avoir... des soins, justement, en fait, une approche psychologique, donc de rencontrer un psychologue, c'est pas évident. Puis souvent, c'est une plus-value là, dans le rétablissement d'une personne. J'ose espérer que ça va s'améliorer aussi, l'accès, là.
Oui, puis en fait, la grande majorité des personnes n'ont pas d'assurance, comme vous dites, pour aller consulter. Et malheureusement, dans certains CLSC ou dans certains hôpitaux, parfois les listes d'attente pour voir un psychiatre sont de 6 mois à 1 an. Donc, j'espère aussi que ça va s'améliorer. Puis, il y a un gros travail qui est à faire à ce niveau-là. Puis, moi, qu'est-ce que je trouve très frappant, c'est qu'il y a 50% des psychologues canadiens qui pratiquent au Québec. Donc, c'est pas qu'on est en pénurie de psychologues. Donc, c'est pas ça le problème. C'est qu'il n'y a pas suffisamment de postes dans le système de santé publique pour les psychologues. Donc, ils migrent vers le système de santé privé. Et là, les gens, malheureusement, n'ont pas les moyens pour s'offrir des séances de thérapie.
Et ça aiderait beaucoup, je pense, ça pourrait aider plusieurs personnes plutôt que d'avoir à attendre, parce que c'est ça qu'on parle de 6 mois, c'est énorme, là, dans la dégradation d'une santé psychologique, ça peut faire une grosse différence. Oui. Comment on voit l'avenir? Il reste peut-être une minute. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour déstigmatiser? Puis j'imagine c'est d'en parler, de faire des efforts en ce sens-là.
Oui, exactement. Je pense de pas oser... d'oser demander à ses proches, à son entourage, comment tu vas, par exemple, de s'intéresser vraiment à comment la personne va, puis d'essayer juste de l'accueillir dans sa souffrance. Moi, je pense que c'est une première étape très, très importante. Puis j'aurais aussi surtout envie de dire entre hommes. Donc, je pense que la santé mentale, c'est encore plus tabou entre les hommes. Donc, tu sais ça, de...
De ne pas avoir peur de tendre la main ou de tendre l'oreille, en fait.
Tendre l'oreille, oui, c'est ça. Ou la main, peu importe. Mais juste de montrer qu'on est là pour les autres puis qu'on est prêt à les écouter.
De ne pas juger, effectivement.
Oui, exactement.
Ouais. En terminant, comment on peut trouver... J'imagine on fait une recherche dans Facebook. Si on cherche humain avant tout, c'est peut-être la meilleure façon pour vous trouver?
Oui, exactement. Donc, dans Facebook, une recherche humaine avant tout. Puis, dans les prochains mois, Humain avant tout va avoir son site web aussi. Donc, ça va être facilement trouvable sur Google.
Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à Folie douce.
Bien, merci de l'invitation.
Merci. Donc, Lisa-Marie Ontois. Donc, Humain avant tout, merci. À la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
C'est le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien, petit tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Si les hommes se tirent dessus, c'est qu'il y a des vaccins dans les balles. Et si les bâtiments explosent, c'est pour fabriquer des étoiles. Et si un jour ils ont disparu, c'est qu'ils s'amusaient tellement bien. Ils sont partis loin faire une ronde, tous entrés, main dans la main. Tout va bien, tout va bien. Petit tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien.
Que vous soyez malin, peu enclin, radin ou épicurien, vous êtes à Folie douce.
Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé sur le sujet de la violence conjugale. Tu avais entamé un peu plus tôt dans l'émission, Pierre.
Oui, j'avais parlé du cas de Lorena Bobbitt et de son mari John Bobbitt qui sont revenus dans l'actualité. Mais en fait, ce que ça avait fait dans les années 90, c'est que ça avait lancé tout le débat sur la violence conjugale et les femmes qui ont peur de parler, ouais, qui endurent longtemps. Mais je vais commencer un autre article, ou en tout cas quelques parties d'un article qui s'appelle « Où la violence conjugale fait-elle le plus de victimes? » C'est un article écrit par Ximena Samson, qui est journaliste. J'ai pris ça sur le site de radiocanada.ca. Et on nous dit « Près d'une femme sur trois dans le monde a déjà subi de la violence physique ou sexuelle de la part de son partenaire intime. En changeant les lois et les mentalités, les choses pourraient s'améliorer. » C'est en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est qu'on trouve les pourcentages les plus élevés de violences conjugales. Dans ces régions, ce sont environ 37 % des femmes qui subissent de la violence aux mains de leurs conjoints, avec des sommets atteignant 78 % dans certains pays d'Afrique centrale.
Oui, il y a aussi des pays comme l'Inde qui n'a pas nécessairement une réputation très enviable pour les femmes.
Oui. On observe également des taux très importants dans certains pays andins et en Asie du Sud. Et même dans des pays à revenus élevés, le quart des femmes ont déjà été battues par leurs compagnons. Monsieur Papa Sek, qui est chef statisticien à ONU Femmes, nous dit que c'est un phénomène global. La violence à l'égard des femmes, c'est partout, dans les pays développés comme dans les pays sous-développés. Il n'existe pas de données sur la violence à l'égard des femmes pour plusieurs pays du monde, mais cette absence d'informations est éloquente. M. Sek nous dit « Dans les pays du Golfe ou de l'Afrique du Nord, le sujet est toujours tabou. Le fait qu'il n'y ait pas de données, ça en dit déjà beaucoup. Là où on dispose de données, il faut aussi savoir que celles-ci peuvent ne pas être fidèles à la réalité. Madame Alessandra Guedes, qui est conseillère régionale sur la violence familiale à l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dit il est la prévalence de la violence contre les femmes est difficile à mesurer méthodologiquement. Elles peuvent ne pas vouloir en parler par honte ou par crainte de représailles. Une opinion que partage Madame Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes du Québec. Elle nous dit « Même nous, dans notre réseau, on ne rejoint pas toutes les femmes victimes de violences conjugales. Les statistiques sont très en deçà de la réalité. Selon Statistique Canada, 70 % des actes de violences conjugales ne sont pas déclarés à la police. Cela explique peut-être les bas taux du Canada bien inférieurs à ceux des pays scandinaves, par exemple, une région du monde considérée comme à l'avant-garde en ce qui concerne la situation des femmes. C'est que les Scandinaves, elles, n'hésitent pas à dénoncer les atteintes à leurs droits, pense Louis Langevin, professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval. En fait, la très grande majorité de la violence physique et sexuelle que subissent les femmes dans le monde émane de leurs partenaires intimes. En ce qui concerne les meurtres, on estime qu'environ 38 % des femmes assassinées dans le monde le sont par leur conjoint ou ex-conjoint. Pour les hommes, on parle de 6 %. Au Canada, 84 personnes ont perdu la vie en 2015 aux mains de leurs compagnons ou compagnes, dont 70 femmes. Selon les données de Statistique Canada, 80 % des victimes de la violence conjugale sont des femmes. Qu'est-ce qui explique qu'on trouve encore des comportements violents dans nos sociétés? Madame Manon Monastès nous dit « La violence conjugale, ce sont des rapports de domination, des rapports de pouvoir des hommes sur les femmes » qui s'inscrivent dans les structures de la société patriarcale. Madame Alessandra Guedes nous dit « Dans les pays à revenus élevés, cette violence n'est pas acceptée, alors que dans les pays à bas revenus, il y a de hauts niveaux d'acceptabilité, y compris parmi les femmes. » Maïmouna Dion Kounda Dembélé, responsable ou mani de la prévention des violences basées sur le genre, nous dit « Si une femme dérobe aux tâches qu'on considère comme obligatoires, telles que la cuisine, le ménage, les soins aux enfants ou les relations sexuelles, les gens trouvent normal qu'elle se fasse frapper. Et cette perception que la violence conjugale peut être justifiée dissuade les femmes de demander de l'aide et fait également que les proches sont moins portés à venir à leur secours. » La seule façon de changer les mentalités, les comportements est d'effectuer un travail d'éducation sur le terrain, explique Mme Dembélé. Son organisme aide ainsi à former des facilitateurs communautaires qui portent le message, préparent des activités de sensibilisation et aident à déconstruire les stéréotypes. Leur travail cible les jeunes pour leur montrer dès l'école ce que sont les relations égalitaires, mais aussi les couples dans des écoles de mari où les époux peuvent notamment discuter de l'importance de la communication conjugale.
On parle de très loin,
oui,
finalement.
Oui. Alors, je sautais à la conclusion. On nous dit, si la violence conjugale est aujourd'hui reconnue comme un crime dans les pays occidentaux, la route a été longue. Et jusqu'à tout récemment, cette violence exercée par un partenaire intime n'était même pas reconnue comme une atteinte aux droits fondamentaux des femmes. La campagne a vu le jour en 1991 pour réclamer que les droits des femmes soient reconnus comme des droits fondamentaux. Cette reconnaissance est maintenant obtenue, mais d'autres combats restent à mener.
Oui, bien merci beaucoup. Sujet donc pas facile, mais c'est bien d'en parler, la violence conjugale. Merci Justine également pour ta participation à Folie douce.
Au-delà de nos yeux, le monde pire au pas des hommes à la ronde. Dire qu'au-delà, sous nos yeux, des bombes. Des dessins naissent des tombes. À qui la faute, au courage qui défaille le vôtre. À cœur vaillant, point d'éclat, et que vaut le vôtre. Au-delà de nos yeux, les autres pire que ça, mon Dieu, vos apôtres, un sourire, une caresse, où est passé le goût de l'un pour l'autre. Terroristes, ces gens-là sont les nôtres. À qui la faute, au courage qui défaille le vôtre. À cœur vaillant, point d'éclat, et que vaut. Des hommes
rire ou pas, quand des dessins naissent des tombes.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots donc en terminant ce rendez-vous de Folie Douce, Ghislain. On va y aller avec la nomenclature des chansons. On écoutait en début d'émission Incendie.
Du groupe Alpha Rococo.
On a pu entendre Ma voiture volante.
De Claude Bégin.
Dans la deuxième demi, on écoutait Tout va bien.
D'Aurel Sam.
Et à l'instant, Au courage.
De Tony Melville.
Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre.
Merci.
Ainsi que pour ta participation. Merci Pierre Laporte à la mise en onde.
Bienvenue.
Merci pour tes blocs Espresso, Pierre aussi. Tu nous as parlé de violence conjugale. C'est très intéressant. Je remercie notre invité en début d'émission, donc du Raccord, Mélissa Baitilingam, qui nous a parlé de ce que fait le Raccord et des projets qu'ils ont. C'est très intéressant aussi. Notre invité en début de deuxième demi, Lisa Marie Ontois, nous a parlé pour sa part de son projet Humain avant tout. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.